Cette transfiguration, c'est donc les disciples qui montent sur la montagne avec Jésus et ils vont le découvrir autrement. Ils vont le voir plein de lumière, ils vont voir une apparence changée, et ça c'est un code dans la Bible pour dire qu'il apparaît sous une apparence divine. Les anges sont toujours très lumineux, les vêtements blancs et tout ça, ce sont des envoyés de Dieu, des messagers de Dieu. Et donc tout à coup, les disciples découvrent en Jésus un messager de Dieu, celui qui devient le porte-parole de Dieu. Et c'est également ce qu'ils vont découvrir avec cette voix qui va venir du ciel et qui va leur dire « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ». Et ça, c'est intéressant puisque, en effet, les disciples, peut-être qu'avant, ils ne voyaient en Jésus qu'un camarade, que quelqu'un qui avait des bonnes paroles édifiantes, et tout à coup, ils vont le voir comme le Fils de Dieu, qui a la parole même de Dieu, comme l'envoyé, le représentant de Dieu. Ce que l'on remarque, c'est que ce qui est changé, ce n'est pas Jésus, c'est son apparence, la façon avec laquelle il le voit. Et je crois qu'il y a un travail à faire, effectivement, pour passer du Jésus historique au Jésus de la foi. Il arrive qu'un certain nombre de personnes, quand elles lisent l'Évangile, disent « Jésus, je ne le trouve pas sympathique » ou « je trouve qu'il est trop orgueilleux, trop désagréable avec les uns ou les autres ». C'est-à-dire qu'ils en restent au Jésus de l'histoire. Le Jésus de l'histoire n'est pas notre problème. La question, c'est de voir en Jésus celui qui est le porteur d'une parole de vie, d'une parole de Dieu, c'est-à-dire d'une parole créatrice. Et pour ça, eh bien, il faut faire comme les disciples, il faut monter sur la montagne pour prier avec Dieu. Et là, on découvre des choses importantes. Mais ce que vont découvrir les disciples, c'est encore plus considérable que ça. Et pour arriver à bien comprendre ce qu'est en jeu dans toute cette histoire un peu compliquée de tentes qu'il faut construire, de lumière, de Moïse et Élie, il faut remarquer une chose, c'est que l'Écriture nous dit que ça se passe pendant une fête juive qui était la fête des cabanes, que l'on appelle indifféremment la fête des cabanes ou la fête des huttes ou la fête des tentes ou encore, en prenant le mot hébreu, la fête de Soukhot. Cette fête de Soukhot était l'une des trois grandes fêtes juives. Bon, il y a Pâques, Pentecôte et Soukhot. C'est les trois grandes fêtes juives les plus importantes qui ont toutes un rapport avec la sortie d'Égypte. Et c'est curieux parce que les chrétiens ont abandonné cette fête de Soukhot. Alors que Pâques a été récupérée, en disant c'est la fête de la libération d'Égypte et de ceux qui échappent à la mort, comme Jésus échappe à la mort. Pentecôte a été récupérée aussi. Pentecôte, c'est la fête du don de la loi pour les Juifs, et c'est devenu le moment où les apôtres prêchent l'Église, autrement dit, et où ils reçoivent le Saint-Esprit pour le faire. Et la fête de Soukhot, eh bien, elle n'a pas été récupérée, et les chrétiens n'en font rien. Ce qui est, je crois, dommage. Je pense qu'il serait bon, peut-être, que justement nous réfléchissions au sens de cette fête et de voir comment Jésus la réinterprète. Parce que les chrétiens, certainement, ne se sentent pas tenus aux fêtes juives. Jésus a montré qu'on était libre par rapport à ces histoires de calendrier. Et les protestants vont très, très, très au bout de ça en disant... il n'y a pas de fête, il n'y a pas de moment religieux, et même il n'y a pas de temps liturgique pour les calvinistes. Pas de temps de carême, pas de temps d'avant ou d'autre chose. On est tous les jours à fêter Pâques et Pentecôte, si vous voulez. Mais pourtant, ces fêtes sont réinterprétées, comme le sabbat. Nous ne respectons pas le sabbat, mais nous pensons que l'esprit du sabbat doit être pris au sérieux par le fait qu'il faut garder un temps dans sa vie pour prier Dieu et pour rechercher sa parole. Et donc, que faisons-nous de cette fête des cabanes, cette fête des huttes? C'est, je crois, ce que nous explique ce texte. Parce que, je vous ai dit, ça se passe, dit l'Écriture, pendant la fête des cabanes. Or, nous avons là tous les éléments de la fête des cabanes ou des tentes. Nous voyons les disciples qui veulent monter des tentes, ce qui se faisait à ce moment-là. Nous voyons aussi Moïse et Élie, c'est logique, puisque la fête des tentes, c'était pour fêter le peuple qui devait sortir d'Égypte. Et là, ils étaient très pressés et on leur a dit, écoutez, n'emmenez rien, vous camperez dans le désert, là, vous vous ferez une simple cabane et vous dormirez là. Alors les Juifs disaient, mais oui, mais moi, il me faut des affaires, ma sécurité, ma maison. Ne vous en faites pas, Dieu pourvoira à toute chose. Et donc cette fête des Soukkot, ça célèbre le premier campement du peuple juif quand il sort d'Égypte, qui quitte son confort et qui est invité à partir à toute vitesse, à tout laisser, pour aller marcher, guidé par Dieu, sans savoir vraiment où ils allaient, sans confort, sans rien, mais avec la confiance que Dieu pourvoirait à toute chose et les amènerait quelque part. Et aujourd'hui, la fête de Soukkot, pour les Juifs, vise justement à rappeler que toutes ces assurances, toutes ces choses que nous, matérielles que nous mettons dans notre vie pour essayer de nous préparer à un avenir confortable, sont dérisoires. Et que nous ne devons finalement compter que sur Dieu seul, parce que quoi qu'il arrive, Dieu, lui, pourra faire en sorte que, quelles que soient les circonstances, nous pourrons survivre, vivre heureux et bien comme il faut. C'est pourquoi d'ailleurs les Juifs, vous savez, quand ils vont dans les cabanes, le règlement du Talmud dit qu'ils doivent construire une cabane avec un toit en branche sur le dessus et qu'il faut que ce toit laisse passer la lumière, c'est-à-dire il faut qu'on puisse voir le ciel au travers. C'est-à-dire ils disent faites une cabane, mais une cabane qui ne protège pas. C'est un peu paradoxal. Une cabane qui ne protégera pas de la pluie. Et il faut qu'à travers la cabane, on puisse dire « Ce toit, finalement, ne me protège de rien, mais je vois à travers le toit le ciel qui est la présence même de Dieu sur qui je compte. » Alors reprenons notre histoire. Pierre, Jacques et Jean montent sur la montagne avec le Christ et avec lui, ils montent pour prier, pour rechercher la présence de Dieu. Il s'élève là dans la méditation, dans le sens de la fête de Soukkot, qui est la recherche du sentiment, de la confiance en Dieu et de ce Dieu qui emmène le peuple dans le désert et qui là donnera sur le Sinaï la loi, c'est-à-dire tous les bons conseils qu'il faut pour vivre heureux, dirais-je d'une façon simple. Donc on a tout, les tentes, on a Moïse, et on a aussi la transfiguration, je vous ai dit, Moïse, sur le mont Sinaï, il reçoit la loi et il descend transfiguré, on a tout. Mais il y a des déplacements considérables et des petits changements dans cette histoire qui, je crois, font voir comment les chrétiens se démarquent des juifs, en quelque sorte, ou comment le Nouveau Testament change et tranche par rapport à l'Ancien, comment on en arrive à une nouvelle conception des choses. Et je pense que ce récit de la transfiguration ne peut être vraiment compris que si on sait ce qu'est la fête des cabanes à l'origine, pour voir quelles sont les transformations que le Christ fait opérer dans l'histoire. Donc vous disais-je, au début tout va bien, on a les cabanes, la montagne, ils discutent avec Moïse et Élie. C'est normal, c'était lié à la fête du don de la Torah, et la Torah c'est la Bible, et la Bible elle comporte deux grandes parties que sont la loi et les prophètes. De tout temps, les commentaires chrétiens ont dit Moïse et Élie représentent la loi et les prophètes. La loi c'est Moïse, Élie c'était un prophète, et donc c'est toute la Bible, tout l'Ancien Testament plutôt, la loi et les prophètes, Moïse et Élie. Et donc Jésus discute avec Moïse et Élie. On voit Jésus en discussion avec l'Ancien Testament. Ça déjà, c'est un peu osé. Parce que la tradition juive pensait que, depuis les derniers prophètes, le Saint-Esprit avait cessé de souffler. Et que donc Moïse et Élie devaient être restés tout seuls dans leur coin, qu'il n'y a que l'Ancien Testament et qu'il n'y a personne d'autre pour dialoguer avec eux. Et là, on apporte un troisième personnage, Jésus. Et Jésus devient à égalité avec Moïse et Élie. C'est là la première affirmation chrétienne fondamentale, c'est qu'il y a à côté de l'Ancien Testament un Nouveau Testament, et que ce Nouveau Testament, il est tout autant une révélation que l'Ancien, et que Jésus lui-même est l'égal, dirais-je, de Moïse et de Élie. Et donc maintenant, il n'y a plus simplement la loi et les prophètes, il y a la loi, les prophètes et Jésus. C'est une grande nouveauté. Jésus discute à égalité, et Pierre trouve que ça lui convient très bien. Il dit, parfait, dressons trois tentes, on va garder Moïse, Élie et Jésus. Et là, ça ne se passe pas comme ça. Au contraire, Moïse et Élie disparaissent et il ne reste que Jésus. Ça, c'est un objet de débat très important, même dans le christianisme et depuis des siècles et des siècles. C'est-à-dire, est-ce que l'on doit mettre à égalité l'Ancien et le Nouveau Testament ? Est-ce que l'on doit hiérarchiser, c'est-à-dire dire il y a l'Ancien et le Nouveau Testament, mais le Nouveau est plus important que l'Ancien ? Ou est-ce qu'on doit même se débarrasser de l'Ancien et dire tout ça, ce sont des vieilleries, ça ne parle que d'un Dieu violent, guerrier, vengeur et tout ça. Tout ça, c'est mauvais, je ne garde que le Dieu d'amour du Nouveau. Cette tendance était celle d'un théologien célèbre qui s'appelait Marcion, et les marcionites étaient ceux qui justement voulaient purifier, je dirais, le christianisme de toutes ses racines juives, et de l'Ancien Testament en particulier. Je ne répondrai pas à votre place, je pense que néanmoins, ce que nous dit ce texte, c'est que Jésus n'est pas coupé de l'Ancien Testament. Il reste en dialogue avec Moïse et Élie. Cela dit, c'est quand même lui qui reste en dernier. Et il surpasse les autres au tel point que Moïse et Élie doivent s'effacer devant lui. Personnellement, c'est comme ça que je lis la Bible. Quand je lis l'Ancien Testament, je le lis avec respect parce qu'il est en dialogue avec le Nouveau. Mais si jamais il y a dans ma lecture de l'Ancien Testament quelque chose qui est en contradiction avec le Nouveau, c'est le Nouveau qui prime. Et donc si je vois dans l'Ancien Testament un Dieu qui punit et qui venge, je dirais non, ça je l'efface au nom de l'Évangile qui nous dit que Dieu est un Dieu d'amour et de pardon. Et donc il y a là une position qui est une chose qui me convient, d'une hiérarchie, si vous voulez, entre Moïse, Élie et Jésus-Christ. Cela dit, Jésus, je vous l'ai dit, est transfiguré comme Moïse l'a été. C'est-à-dire que Jésus est présenté là comme le nouveau Moïse. Et là encore, il y a des petites différences. Moïse, il a vu Jésus, il a vu Dieu. Dieu lui donne des tables de pierre et Moïse descend avec ces tables qui sont une loi de pierre immuable à appliquer. Là, Jésus de nouveau est comme Moïse, c'est le nouveau Moïse. De nouveau, Dieu se révèle. De nouveau, Dieu nous donne sa parole et il nous dit ce qu'il attend de nous. Mais ce coup-ci, que fait Dieu ? Il ne dicte plus une série de commandements. Il ne dit pas, ah, puisque je vous tiens, tenez, je vais vous rajouter encore quelques vingtaines de commandements ou je remplace les anciens par des nouveaux. La voix qui vient du ciel, comme pour Moïse, ne dicte plus 613 commandements. Elle dit juste, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. C'est-à-dire qu'on sort d'une logique de la loi pour dire on est dans une logique de la parole. Et la nouvelle loi, eh bien, c'est que Jésus parle et ce qu'il nous dit. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans une loi écrite, mais dans une loi orale, dans quelque chose qui n'est pas immuable, comme toute parole qui doit être interprétée, discutée, entendue, comprise d'une façon ou d'une autre, suivant qui l'on est. Et nous ne sommes plus dans une obéissance, mais nous sommes invités à être dans une relation d'écoute par rapport à Jésus. Et donc Jésus remplace la loi, je vous l'ai dit, et d'autre part, il remplace aussi les prophètes. Moïse, Élie, la loi et les prophètes, donc il remplace la loi, et s'il évince Élie, c'est qu'il remplace aussi le prophète. Et ça, je le comprends d'une autre manière, c'est que Jésus, illuminé, flamboyant au sommet d'une montagne, moi, ça me fait penser au buisson ardent. où Dieu lui-même s'est présenté comme la présence de Dieu sur le sommet de la montagne, le buisson ardent. Et donc cela veut dire que tout à coup, le buisson ardent pour nous chrétiens, ce n'est plus le buisson ardent, mais c'est Jésus lui-même qui est le buisson ardent. Cela veut dire que Jésus devient la présence même de Dieu. Donc il remplace à la fois la loi par une parole, et il remplace la présence de Dieu en étant lui-même le sens de cette présence, et donc d'inviter à une relation au Christ comme étant le Fils de Dieu. Et puis, autre chose encore, c'est la manière avec laquelle on va faire confiance à Dieu à partir de là. Et là encore, Jésus a beaucoup à nous dire. Je vous l'ai dit, Soukhot, c'est la fête de la libération de l'exil et de l'esclavage, et de dire, si vous voulez être sauvé par Dieu, vous devez être capable de vivre dans la précarité, vous devez être capable de sortir de chez vous, pour vous en remettre à Dieu seul. Et si vous voulez être libéré d'Égypte, il faut que vous acceptiez de partir en voyage dans le désert. Et donc il faut accepter de partir en exode. L'exode, c'est ça, c'est le voyage du peuple dans le désert. Or, et c'est là où ça devient passionnant, dans le texte, nos traductions le masquent, mais le mot exode s'y trouve. Et en particulier, on nous dit que c'est le sujet de discussion entre Jésus, Moïse et Élie. Nos traductions disent « Il s'entretenait avec eux de son départ à Jérusalem ». Et là, le mot qui a été choisi dans le texte grec, c'est « exodos ». Et donc Jésus parle de son exode pour aller à Jérusalem. Ça, c'est pas un hasard. La fête des cabanes, c'est la fête de l'exode. Et Jésus parle de son exode. Et donc la question, c'est bien ça, c'est de savoir comment va se passer ce voyage de Jésus. Or, le voyage de Jésus à Jérusalem, ça ne va pas être les croisières paquets. Il va aller à Jérusalem, là on sait qu'il va être trahi par son meilleur ami, on sait que là il va souffrir d'angoisse à Gethsémané, on sait qu'il va être crucifié, qu'il va souffrir la passion et qu'il va y mourir. Alors ça, c'est un chemin qui n'est pas drôle. Situation difficile, d'épreuve et de malheur. Et pourtant, justement, cet épisode de la Transfiguration, juste avant ça, nous rappelle la confiance en Dieu et de dire ce que Jésus croit et ce qu'il annonce aux disciples, c'est que Dieu pourra le sauver du mal. Et comme Dieu a sauvé le peuple d'Égypte où il était maltraité, Dieu pourra sauver Jésus de tout ce qu'il attend dans ces événements compliqués. Soukhot, c'est la fête de la confiance en Dieu et la fête de croire que, eh bien, même dans tout ce chemin de mal que va vivre Jésus, jamais Jésus ne sera abandonné et Dieu arrivera à transformer en bien ce chemin qui semblait quand même plutôt mal parti. Et ce que l'on croit vrai pour le Christ, on peut le croire aussi vrai pour nous. Et ça, on le voit d'une autre manière. Parce que Pierre, donc il comprend, il dit « D'accord, donc vous avez confiance en Dieu. Et même Jésus, d'accord, je sais, tu dois aller à Jérusalem, mais ok, je crois bien que Dieu se débrouillera pour faire en sorte que ce chemin ne mène pas à la mort et au désespoir, mais que ce soit un chemin qui mène à travers ces difficultés à la vie. C'est une belle foi, c'est ce que nous avons prêché à Pâques. » Et Pierre dit « Nous allons dresser trois tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » C'était pas idiot. Il a dit « J'ai compris. Dieu, comme il a aidé Moïse, comme il a aidé Élie, Dieu t'aidera toi aussi, parce que toi, Jésus, tu es sous l'aide et la protection de Dieu. » Mais c'est pas comme ça que ça va se passer. On nous dit que Pierre, là, avait dit quelque chose qui n'était pas juste. Il ne savait pas ce qu'il disait. Ou plutôt, il n'avait pas encore vraiment tout bien compris comment ça devait se passer. À ce moment-là, tout s'efface et on nous dit une grande nuée arrive qui recouvre tout le monde. Et ça, c'est un message théologique extraordinaire. Parce que c'est pour dire, la protection de Dieu, elle ne sera pas réservée à l'élite, c'est-à-dire à Moïse, à Élie, à Jésus. La protection de Dieu, elle va être pour tout le monde. Et la nuée, elle va recouvrir tous ceux qui sont là. Moïse, Élie, Jésus, Jacques, Jean, Pierre et tous ceux qui seront là, qui seront couverts par la nuée. La nuée, c'est le symbole de la présence de Dieu. Tous seront sous la protection de cette présence de Dieu. Et j'aime beaucoup ça, parce qu'on n'est plus, si vous voulez, dans une sorte d'individualisme, ni qui dirait que Dieu donnerait sa protection aux grands qui ont la foi, aux spécialistes de la théologie, aux patriarches, à Jésus, mais il le donne à tout le monde, même aux plus humbles, aux plus petits. Et la nuée, elle se donne à tout le monde, même à celui qui n'a pas la foi, même à celui qui ne sait pas prier. La nuée protège tout le monde. Donc il y a une sorte d'universalité de la grâce qui est offerte là. Et on n'est plus non plus dans cette idée où chacun va se faire sa petite cabane dans son jardin. Moi, je me fais ma petite cabane parce que Dieu, il me protège moi, mais pas mon voisin. Là, c'est plus chacun sa petite cabane. C'est une grande nuée qui est offerte généralement, généreusement à tout le monde. Et chacun sera au bénéfice de cette aide et de cette protection de Dieu. Et c'est pourquoi je vous disais que cette confiance en Dieu dite à la transfiguration ne concerne pas que la vie du Christ qui malgré ses problèmes de crucifixion conduira à la lumière et à Pâques, mais c'est pour chacun de nous. Chacun de nous avons un chemin qui finalement nous emmène aussi par des petits Gethsémané, par des petites passions et par des petites morts. Et bien néanmoins, j'ai confiance, moi, que Dieu pourra toujours faire en sorte que je sois libéré et sauvé dans ces chemins de passion, et que Pâques ne s'adresse pas qu'à Jésus, mais finalement à moi-même et à chacun de nous. Et même, dirais-je, si Moïse et Élie disparaissent, c'est peut-être aussi justement pour dire d'une façon encore plus générale que ça n'est pas réservé à ceux qui obéissent à la loi, Moïse, ou à ceux qui ont une foi complète comme les prophètes et Élie, mais à tout le monde. Simplement, Jésus, le Christ, présence et force, secours extraordinaire que l'on peut connaître lorsque l'on s'approche de lui et lorsque l'on monte avec lui sur la montagne pour prier. Mais pour ça, encore faut-il envisager de partir avec le Christ. L'exodos, l'exode. Et la confiance, je vous ai dit, c'est bien ça, c'est de partir en se disant « Dieu pourvoira, Dieu fera en sorte que je pourrai y arriver ». Cette providence, elle est offerte pour nous tous. Et pour sortir du mal, il faut donc d'abord accepter d'avancer et de sortir. Ça, c'est la seule chose qui a été demandée au peuple d'Égypte. On ne leur a pas demandé d'être bon, ni d'être priant, ni de croire en Dieu. On leur a dit « Vous laissez tout, vous partez. Si tu pars pas, moi, j'y peux rien. Mais vous partez, qui que vous soyez. » C'est la première chose. Il faut aller de l'avant et il faut sortir de là. Vous êtes en Égypte, vous êtes malheureux, vous êtes esclave, eh bien, sortez de là. Dieu vous aidera. Alors, je ne sais pas où ça me mènera, est-ce que ce sera mieux, moins bien, mais j'ai confiance. En tout cas, la première chose à faire, c'est de sortir de là, de se bouger, comme je dirais. Il faut accepter de sortir et de ne pas nier le passé, certainement, parce que Jésus discute quand même avec Moïse et Élie, mais de construire là-dessus et d'avancer. D'avancer et finalement, on les laisse au bout d'un certain temps pour faire sa propre vie. Il ne faut pas rester sur place pour se lamenter, il faut aller ailleurs, il faut s'adapter et avancer. Et ça n'est pas que moi ou l'Évangile qui le dit, c'est même d'autres gens qui pourtant n'étaient pas très croyants, comme Darwin qui dit « Vivre, c'est s'adapter ». Eh bien, je crois qu'il a raison. C'est le message de Soukhot. Vivre, c'est s'adapter et vivre, c'est avancer. Et on ne peut sortir de quoi que ce soit qu'en avançant et que par le mouvement et l'adaptation. Soukhot, c'est ça. Partez très vite, n'emmenez rien, vous n'avez pas le temps. Vous partez, vous camperez dans le désert, vous verrez bien. Mais Seigneur, comment ? Aie confiance, Dieu y pourvoira. Bon, c'est vrai, le chemin ne sera pas forcément très facile. 40 ans, nous dit-on, 40 ans dans le désert. 40 ans, c'est une vie entière. Alors bon. Et d'ailleurs, c'est tellement une vie entière qu'on dit qu'aucun de ceux qui ont quitté l'Égypte n'entreront dans la terre promise. Donc, vous voyez, je ne vais pas vous dorez la pilule en vous disant « Suivez Jésus et vous obtiendrez la plénitude de la paix, du confort, de la joie, etc. » Mais simplement, mettez-vous en marche. Il y aura dans cette marche des aventures, des embûches, et même si vous n'arrivez jamais au but, ça n'est pas très grave. L'important, c'est d'être en route, de marcher, de s'approcher. Et je crois que l'important, c'est que, justement, dans cette route, eh bien, on est libre et on avance avec son propre Dieu. Et on peut avancer avec cette confiance à laquelle nous invite Soukhot. Et je crois que comme Dieu a transfiguré le Christ, il pourra nous aussi nous transfigurer et transfigurer toute notre histoire. Et comme Dieu a même transfiguré la mort du Christ, il peut transfigurer tous nos problèmes et même toutes nos morts et même notre mort. Et cette transfiguration, je vous l'ai dit au début, ce n'est pas de changer la nature des choses, c'est de changer l'apparence. Et je crois qu'avec Dieu, effectivement, les événements ne changent pas, ce que nous subissons, nous le subissons, mais la façon avec laquelle les choses nous apparaissent peut changer radicalement et nous pouvons les considérer autrement. Parce que si Jésus est transfiguré, il devient lui-même une source de lumière. Et nous pouvons, si nous avons avec nous ce petit Jésus transfiguré, voir tout à la lumière du Christ. Et à la lumière de l'histoire du Christ, toutes nos histoires peuvent être revisitées et réinterprétées comme des histoires d'espérance et non pas comme des histoires de désespoir ou de mort. Et ça peut changer notre vie, ça peut changer la façon avec laquelle nous vivons les événements. Ça peut changer notre façon de voir notre voyage dans la vie, et que nos voyages dans la vie, nos changements, nos déplacements, nos arrachements peuvent être vus non plus comme des sources d'angoisse, mais au contraire comme des chances de découvrir une nouveauté qui se trouve là. Et avec Dieu, on peut le faire avec confiance, parce que je le crois très fermement, Dieu toujours pourvoira à ce que, quel que soit notre chemin, nous puissions y trouver sur notre route la joie, la force et la paix dont nous avons besoin pour vivre. Dieu pourvoira à tout, et où que soit votre chemin, où qu'il aille, n'ayez pas peur, parce que ce chemin peut être un chemin de lumière et de joie bordé de lait et de miel, dans lequel Dieu vous donnera en temps voulu la manne qu'il vous faudra, les cailles dont vous aurez besoin pour nourrir, et comme Moïse, il saura vous donner les sources d'eau qu'il vous faudra pour vous abreuver quand vous en aurez besoin. Donc n'ayez pas peur de vous mettre en marche, n'ayez pas peur de l'avenir, Dieu est avec vous. Il vous couvre de sa nuée, il vous inonde de sa lumière, mais mettez-vous en marche, mettez-vous en route. La seule chose terrible, ce serait de rester comme un imbécile en bas de la montagne à ne rien faire. La vie, elle est devant vous, levez-vous et en marche, Christ vous guidera vers de verts pâturages, et il vous guidera vers les eaux paisibles. Ayez confiance, vous avez un Dieu fidèle qui toujours sera avec vous, source de tout bien, quoi qu'il arrive. Amen.